Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce numéro de Bistro Vélo exceptionnel. Et oui, trois semaines de folie qui viennent de se terminer, la grand-messe de juillet s'en est allée, le Tour de France, un numéro de Bistro Vélo spécial débrief Tour de France. On sera en compagnie de Steve Chenel, notre consultant sur Eurosport, dans quelques instants pour parler de ces trois semaines, voir un petit peu tout ce qu'il s'est passé. On essaiera de faire un petit peu le tour avec vous. Bien entendu, vous le savez, c'est votre émission, n'hésitez pas à partager, à commenter via le live Facebook. Posez vos questions à Steve, vos coups de cœur, vos coups de gueule sur ce Tour de France. On en choisira quelques-unes. On va tout de suite démarrer avec le menu du jour. On va regarder sur quoi on va se concentrer. Aujourd'hui, 2021, une cuvée slovène. Forcément, une première partie axée sur le classement général et un certain Tadej Pogacar. Les héros du Tour, on en a listé 4 avec Sébastien Petit. Il y en avait plein d'autres à choisir, mais on a choisi ces 4-là et on vous expliquera pourquoi. Et enfin, le cahier de classe redouté par certains, attendu par d'autres, on fera le point sur les notes de ce Tour de France. Steve Chenel est en notre compagnie. Salut Steve, comment ça va?
Eh bien, salut Colin, salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé trois super semaines. En tout cas, tu as passé trois bonnes semaines aussi, toi, t'as bonne mine.
Trois bonnes semaines, effectivement. Alors, on n'était pas enfermé en cabine comme toi, Steve, mais j'imagine que ça s'est plutôt bien passé. La fin du Tour de France, ça fait plaisir un peu de rentrer à la maison. T'es dans les Vosges, là.
Écoute, ça fait super plaisir de rentrer à la maison. Tu vois, j'ai retrouvé mon bois, mes sapins et la maison. Mais effectivement, trois semaines de cabine. Mais bon, tu sais aussi bien que moi que c'était quand même plutôt agréable. Ça passe très, 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 très vite. Et limite, le petit coup de déprime ce matin quand il a fallu rentrer à la maison, l'aventure était terminée. Un petit peu comme les coureurs, j'imagine. Puis ben, dans la tête, plein d'images qui se bousculent. Donc, ça va être cool de pouvoir le partager avec toi et nos auditeurs.
Et chaque année, c'est la même chose. Chaque année, il y a ce petit pincement au cœur lors de l'arrivée sur les Champs-Élysées où on se dit, bon, bah, vivement l'année prochaine, effectivement. Allez, on passe à cette première partie. 2021, une cuvée slovène, impossible de passer à côté. Son nom a fait la une de tous les journaux. C'est Tadej Pogacar, bien sûr, une slovène de la formation des Émirats.
Ouais, bah carrément. Hein. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, où il avait pris le maillot la veille des Champs-Élysées, voilà, il n'était pas forcément attendu. On attendait la confirmation de son excellente Vuelta pour son premier grand tour. Mais là, cette année, eh ben, il était dans la peau du favori. Il avait le dossard 1 sur le dos. Il n'avait pas le choix que d'être parmi les meilleurs, que de jouer la victoire finale. On avait quelques doutes sur, on va dire son équipe, mais le mec, le coureur, Tadej Pogacar, clairement, lui, n'est passé vraiment au travers d'aucune étape. Il y a eu une mini panique, j'ai envie de dire, encore que dans l'étape de Malocène, où Jonas Vingegaard avait réussi à lui prendre quelques secondes. Mais voilà, une cuvée 2021 pour Tadej Pogacar, exceptionnelle. Victoire sur le chrono, deux victoires dans les Pyrénées. Un maillot jaune qu'il a maintenu pendant bien longtemps. Il était d'ailleurs très content de courir avec ce maillot jaune. Donc non, un Tadej Pogacar qui a montré qu'on allait se le coltiner, j'ai envie de dire, pendant 5, 6, peut-être 7, 8 ans.
Steve, on le connaît, Tadej Pogacar. On a la chance de le suivre tout au long de la saison ensemble sur Eurosport. Est-ce qu'il t'a encore surpris cette saison? Il arrivait déjà avec beaucoup de résultats, mais c'est surtout les chiffres qui parlent. Tu le disais, vainqueur du chrono, vainqueur en étape de montagne. Et il a semblé vraiment facile, sans adversité. Alors, on en parlera un petit peu plus tard. Il y a eu des pépins pour beaucoup de ses adversaires au classement général. Il y a eu également des absents, mais il a semblé en contrôle, hormis peut-être effectivement cette étape sur le Mont Ventoux avec Jonas Vingegaard qui lui a repris quelques secondes au sommet. Il a semblé s'amuser tout simplement sur ce Tour de France.
Ouais, tu as tout à fait résumé la situation. On a eu l'impression qu'il était tellement détendu. Il n'y a jamais eu de mouvement de panique. On n'a jamais vu un Tadej Pogacar tirer la gueule, être stressé, avoir peur, sentir que ses adversaires voulaient le bousculer. Enfin, honnêtement, on a senti qu'il y avait aussi son âge, 22 ans, la fougue, la jeunesse, j'ai envie de dire la décontraction du gamin. Mais par contre, quel tueur, il a laissé aucune miette à ses adversaires. C'est vrai que lorsqu'on est arrivé dans les Pyrénées, habituellement, quand on a un maillot jaune qui possède 5 minutes d'avance, il est en mode défensif. Ben non, lui, il a été attaquant. Il était offensif, il a voulu gagner des étapes. Incroyable, incroyable. Moi, il m'a un petit peu surpris dans la mesure où il était complètement hermétique à la pression. On le rappelle, Dossard 1, il a gagné l'Est-Bastogne-Liège, il a gagné son tour national, le Tour de Slovénie. Il est présent depuis le mois de février. Et réussir à gagner un deuxième tour, c'est tout simplement exceptionnel.
Et surtout, il y en a beaucoup qui critiquaient un petit peu au début cette formation des Émirats Arabes Unis qui, pour l'occasion, s'était renforcée. Il y a quand même eu des apports dans cette équipe, un certain Rafa Majka, ça n'a pas été le transfert le plus ronflant de l'intersaison quand il est arrivé de la Bora. Mais quand on voit le travail du Polonais, ancien maillot à poids du Tour de France, c'est une pépite. Il a été emmené dans un fauteuil, Tadej Pogacar.
Ah ouais, non, mais clairement, c'est vrai que lors du départ en Bretagne, on se posait quand même quelques questions sur l'inexpérience des coureurs qui l'accompagnaient, que ce soit Vegard Steeklangen ou encore un garçon comme McNulty. Voilà, c'est des coureurs qui sont très bons, qui sont de très bons équipiers, mais être des bons équipiers sur une course traditionnelle comme être de très bons équipiers pour emmener le vainqueur du Tour de France à Paris, c'est encore une autre affaire. Et c'est vrai que sur les étapes de plaine, elle n'était pas vraiment costaud, elle était toujours là, mais vraiment sans dominer, sans rouler vraiment de fort belle manière. Par contre, en montagne, il y avait toujours effectivement McNulty, Maïka, il y a eu un grand fort mollo en deuxième semaine, il y a même eu à un moment donné Mikael Bjerg qui nous a fait des étapes de folie. Donc non, je crois qu'on est arrivé sur ce Tour de France prêt à 100%, prêt à se sacrifier pour Pogacar, et ils ont couru à la perfection.
Vous êtes déjà très nombreux hein, via le live Facebook. Bonjour à Laurent, bonjour à Sylvie, bonjour à Daniel qui commence à poser des questions. On les attend, hein, vos questions à Steve Chenel. On attend vos coups de cœur, vos coups de gueule, votre révélation également de ce Tour de France. On parlait de ce classement général avec seulement deux coureurs à moins de 10 minutes. C'est le Dauphin, Jonas Vingegaard et Richard Carapaz qui a pris la troisième place, l'Équatorien. Derrière, les autres sont à des années-lumière. On prend un Rigoberto Urán qui est dixième. Il est à 18 minutes. Certes, il éclate sur la fin du Tour. Ça a été un Tour un petit peu, on va pas dire tronqué, mais les chutes ont été au centre un petit peu du débat, une fois n'est pas coutume, avec énormément de candidats à la victoire finale, ou du moins au podium, qui sont impliqués en début de semaine, et notamment celui qu'on annonçait comme le favori numéro 1, bah, certain Primoz Roglic, qui n'a pas pu jouer sa carte tout simplement sur ce Tour de France.
Bah, t'as tellement bien résumé la situation, c'est vrai qu'on attendait un Primoz Roglic, évidemment revanchard par rapport à l'année passée, malheureusement victime de cette chute qui ne lui a pas permis de défendre ses chances le plus loin possible. Très rapidement, on a compris qu'il n'y arriverait pas, qu'il ne pourrait pas se battre même pour un podium. D'ailleurs, je pense que la décision d'abandonner, de s'arrêter a été la plus sage des décisions. Et puis c'est vrai qu'un garçon comme Geraint Thomas, comme Richie Porte, c'est des coureurs qu'on pouvait citer parmi les favoris. Richie Porte, il a fait un véritable numéro sur le dernier Dauphiné. Il a terminé troisième du Tour l'année passée. Mais voilà, il était dans une situation où il était équipier de Geraint Thomas, mais lui aussi victime de chute. Et puis finalement, ça nous a sorti un garçon comme Jonas Vingegaard, voilà, deuxième du Tour de France. Pas beaucoup de bookmakers qui l'auraient mis sur le podium, sur le Tour. Donc voilà, ça montre qu'il fallait être frais, chanceux, et puis qu'il fallait surtout passer au travers de toutes ces péripéties. Et puis bah voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup qu'on attendait, qui sont passés au travers, notamment aussi Rigoberto Urán, tu l'as dit, qui avait fait un Tour de Suisse, pareil, assez incroyable, qui malheureusement a flanché en dernière semaine pour terminer très loin de son objectif initial à la 10e place.
Les chutes, elles font partie du métier, Steve. Quand tu étais dans le peloton, tu en as connu, tu en as commenté énormément des chutes. Sur le Tour de France, c'est monnaie courante sur les premières semaines, mais celle-là, notamment celle de la première étape avec cette fameuse pancarte et le bis dans le final également, elles ont vraiment donné un autre tournant à ce Tour de France. Il y avait des Miguel Angel Lopez, des Geraint Thomas, tu le disais, qui étaient dedans. Elles étaient surtout extrêmement spectaculaires.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup de vitesse. Après, c'est vrai que lorsqu'on est au sein du peloton, on se rend pas compte finalement de la nervosité ambiante. C'est vrai que j'ai jamais fait le Tour de France, mais j'ai fait voilà tous les classiques, Paris-Roubaix, ou lorsqu'on est avant la tranchée d'Arambert, on est 150 à vouloir être dans les 20 premiers. Ça frotte énormément, mais j'ai l'impression que sur le Tour, on calcule un petit peu moins son risque. On sait très bien que c'est, j'ai envie de dire, presque primordial d'être placé, par exemple, au Diborne. Et tous les coureurs sont sur la plus grande course du monde. Tous les coureurs ont la même consigne. Et on va toujours un petit peu plus loin dans la recherche du placement. Et finalement, on prend encore un tout petit peu plus de risques. Et c'est à ce moment-là qu'on bascule. Et c'est vrai que, bon, bah, voilà, la pancarte au pied au mi qui a fait le tour du monde. Voilà, c'est une erreur. Il n'y a que sur le Tour de France qu'on peut voir ça. Voilà, les gens viennent sur le Tour, veulent se faire remarquer. La dernière chute, pareil, à 6 bornes de l'arrivée. C'est assez incroyable. On sait que tout le monde veut aller se mêler au sprint, alors que sur n'importe quelle course à étapes, il y a deux fois moins de monde. Donc, c'est sur le Tour de France et on sait que la première semaine, elle est traître là-dessus et on a perdu beaucoup de temps.
On était surtout très contents de retrouver du monde au bord de la route. Je ne sais pas si tu es de mon avis, Steve, et c'est un petit peu l'avis des suiveurs. Il y a beaucoup de réactions sur le live Facebook. On a vécu une première semaine complètement folle. Et arrivé le premier week-end, les Alpes, notamment la démonstration de Tadej Pogacar, on est un peu resté sur notre fin sur les deux autres semaines. Est-ce qu'on n'avait pas commencé un petit peu trop fort ce Tour de France?
Bah, c'est vrai que chaque année, on le répète, le Tour de France, ça reste quand même une épreuve d'endurance où il y a une certaine gestion. On ne peut pas faire tous les jours pim pam poum et forcément arriver à Paris en étant encore frais, en voulant de la bagarre. D'ailleurs, le tracé du parcours est fort bien étudié par ASO pour justement essayer de faire une première semaine relativement tranquille, entre guillemets, avec un petit peu de spectacle en fin de course. Mais c'est surtout la troisième semaine qui prime. Mais là, cette année, on avait un énergumène, un certain Van Der Poel, qui n'était pas là pour se contenter de se dire « on va faire trois semaines, on va gérer ». Honnêtement, il est arrivé sur ce tour avec des garçons comme Wout Van Aert, avec des garçons comme Julien Philippe, qui s'étaient fait cette première semaine comme principal objectif. Et du coup, c'est vrai que première semaine, honnêtement, on a eu l'impression que c'était tous les jours une classique qui se courait. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de fatigue et ça a calmé pas mal d'ardeur en deuxième semaine. Et effectivement, on a eu une traversée des Alpes, voilà, qui a été somme toute assez spectaculaire, mais beaucoup moins limite que le départ en Bretagne.
Ouais, effectivement, on en reparlera de Mathieu Van Der Poel, de Wout Van Aert, ça sera dans la deuxième partie. On va s'attabler, si tu le veux bien, Steve, aux deux grosses surprises de ce Tour de France au niveau du classement général. La première, tu l'as un petit peu évoqué, c'est le dauphin de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard. Pour les suiveurs, c'était un inconnu. On le suit depuis maintenant 2-3 ans dans cette équipe Jumbo-Visma. Il est monté en puissance, on l'a vu sur le Tour du Pays Basque en début de saison. Mais de là, Steve, à retrouver Jonas Vingegaard, qui à la base était prévu comme un équipier de Primož Roglič, deuxième du Tour de France, qui plus est en faisant sauter le maillot jaune sur le Mont Ventoux. Quand on y repense, c'est quand même c'est lunaire un petit peu ce qui s'est passé pour ce gamin danois sur ce Tour de France.
Non, mais c'est complètement fou parce que c'est vrai que Jonas Vingegaard, il était sur le Tour de France uniquement pour épauler Primož Roglič. On sait que le favori et le leader de l'équipe Jumbo-Visma, c'était Primož Roglič. Tout était fait pour lui. Et très rapidement, on perd Roglič. Et au sein de la Jumbo-Visma, on s'est dit, on va jouer la carte Vingegaard. Il est jeune, il n'a pas de garantie sur le Tour de France. C'est effectivement un excellent coureur, un bon grimpeur, un bon rouleur, quelqu'un qui nous a montré pas mal de garanties en début de saison, mais aussi de les années passées. Mais du coup, là, sur le Tour de France, on s'est dit, allez, on va le mettre dans la peau d'un leader de rechange, mais on va pas tout faire pour lui. On va pas courir comme s'il était le favori et le leader unique de cette équipe. Et ça a bien marché. Sepp Kuss a pu aller gagner son étape. Wout Van Aert a pu aller jouer son étape. On avait un Mike Tennissen qui a été énorme et qui a pu lui aussi se mettre au service du Danois. On a perdu Tony Martin, on a perdu pas mal de monde. Mais c'est vrai que cette Jumbo-Visma, on a eu l'impression qu'elle allait avoir un coup de massue à la tête lorsqu'elle a perdu Roglič. Mais chapeau à Vingegaard. Je crois que personne ne l'aurait mis sur le podium, peut-être excepté sa femme et sa famille. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour nous les suiveurs, un hypothétique top 10, pourquoi pas, en aidant Roglič. Mais de là à terminer deuxième, non, c'est vraiment une très, très belle surprise. Et à partir de maintenant, on sera obligé de le citer parmi les podiumables des grands tours.
Et on le rappelle, c'était son premier Tour de France. Il avait disputé la Vuelta en équipier l'an passé et il arrive sur ce tour. Et c'est surtout sa gestion, tu le disais, sur trois semaines.
Incroyable.
Et puis, capable de performer autant sur le chrono, peut-être l'un des meilleurs rouleurs du peloton, qu'en montagne. La deuxième révélation de ce tour, forcément, on n'a pas pu passer à côté, c'est Ben O'Connor. Ben O'Connor, vainqueur de l'étape de Tine dans des conditions dantesques, et le coureur de la formation AG2R Citroën, qui est une recrue. Ça, c'est une belle trouvaille. On se souvient de sa victoire sur le Giro l'an passé. Mais pareil, Steve, de là à retrouver Ben O'Connor, quatrième du classement général final à Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Ben, c'est extraordinaire, surtout pour Vincent Lavenue, qui a eu le pif.
On l'a prolongé tout de suite.
Mais on l'a même prolongé avant le tour.
Avant le tour.
On a été très malin. Et bravo Vincent pour cette belle pioche. Mais c'est vrai que c'est pareil. Ben O'Connor, alors oui, a profité de sa perte de temps en première semaine pour aller chercher une longue échappée et venir faire un bond au classement général lors de l'étape de Tignes. Mais derrière, il a tenu la baraque. Il a été présent, il a réussi à conserver sa place dans le top 5. C'est vrai que Ben O'Connor, mais top 10, et encore, je ne suis pas certain que si j'avais donné 10 noms, je l'aurais mis dedans. Mais quelle surprise. Et c'est pour une équipe française, voilà, l'occasion de se mettre en avant. On rappelle que Citroën est arrivé cette année. Donc, chapeau à Vincent Lavenue d'avoir été chercher l'Australien. Puis là, c'est pareil, un petit peu à l'image de Vingegaard. Désormais, on aura un œil avisé. Il aura surtout moins de marge de manœuvre. Faut oublier qu'il a fait 4 grâce à son étape de team. Ouais. Mais franchement, quelle surprise, effectivement. Vingegaard et O'Connor, messieurs, maintenant, l'objectif top 5 sur les grands tours est réalisé. C'est objectif podium, voire victoire.
Objectif confirmation. Question de Tony sur le live Facebook. Le seul capable de rivaliser en montagne avec Tadej Pogacar, c'était Miguel André Lopez, qui a joué de malchance. Le Colombien de la formation Movistar a été inexistant sur ce tour. Est-ce que Steve est d'accord avec moi?
Complètement d'accord. C'est vrai qu'il avait fait une Mont Ventoux dénivelé challenge absolument incroyable. Il avait mis plus de 2 minutes 30 au deuxième. On sentait un Miguel Angel Lopez aérien. Peut-être il est arrivé un petit peu trop en forme sur ce Tour de France. Et effectivement, cette chute a, on va dire, a tout foutu en l'air. Après, il est tombé assez tôt dans le Tour. Ouais. Et on l'a pas vu faire une belle troisième semaine. Donc, je pense qu'il était aussi en bout de course. Mais moi, par contre, dans les 10 noms, que si j'avais 10 noms à sortir avant le Tour, évidemment, j'aurais mis Miguel Angel Lopez parmi le top 5.
Question de Laurent, ton avis sur la formation Ineos, la plus grosse structure du World Tour, avec Geraint Thomas qui a joué de malchance, Richie Porte qui est arrivé en étant vainqueur du Critérium du Dauphiné, Tao Geoghegan-Hart, le vainqueur du Giro qu'on n'a pas vu du tout, et Richard Carapaz qu'on annonçait peut-être vainqueur, qui au final sauve un petit peu les meubles, il finit troisième, mais pas de victoire d'étape pour le team Ineos qu'on a beaucoup vu, mais qui au final n'a pas réellement pu peser sur la course.
Non, mais après, elles ont couru comme si elles étaient les patrons, du Tour. On les a vues prendre souvent la course en main, souvent rouler en tête de peloton, souvent essayer de bousculer Tadej Pogacar. Je crois tout simplement que Carapaz était moins fort. Et puis effectivement, Tao Geoghegan-Hart, c'était pas le Tao Geoghegan-Hart du Giro. Richie Porte, on a très vite compris qu'il avait pas envie d'endosser ce rôle de leader. Et puis Richard Carapaz, malheureusement pour lui, il y avait un phénomène, Tadej Pogacar. Ils ont couru juste. Mais ils n'ont pas couru avec le meilleur élément dans leur équipe. On ne peut rien leur reprocher. Ils ont tous les jours tenté. Peut-être, effectivement, on attendait plus de spectacle. On n'a pas beaucoup vu Richie Porte se glisser dans une échappée au long cours, voire Geraint Thomas qui n'avait pas les jambes. Mais voilà, pour moi, la formation Ineos a fait un tour comme elle devait le faire, c'est-à-dire à l'avant avec les gros salaires, j'ai envie de dire, du peloton. Ouais. Mais malheureusement, elle n'était pas la plus forte, tout simplement. Et
Sandrine, via la formation Ineos, qui nous dit les deux meilleurs coureurs du début de saison de l'équipe Ineos n'étaient pas alignés, à savoir Egan Bernal et Adam Yates, dont on ne parle pas beaucoup, mais Adam Yates qui aurait pu être le leader de cette formation Ineos. Effectivement.
Oui, c'est vrai que quand on regarde leur effectif, de toute façon, Bernal est resté à la maison, Yates est resté à la maison, Sivakov est resté à la maison, des garçons comme Narvaez, Ivan Sosa, enfin bref, beaucoup de coureurs qui auraient pu évidemment apporter leur pierre à l'édifice, à un bon classement général pour Carapaz, voire même une victoire d'étape. Mais il y a des choix à faire, c'est un problème de luxe chez Ineos chaque année. Qui on va mettre sur le tour, qui on met en leader? En tout cas, on les reverra l'année prochaine à coup sûr et venir pour la gagne.
On peut imaginer que sur les prochaines courses, notamment sur la Vuelta, ils seront revanchards. Egan Bernal, on le rappelle, est annoncé sur la Vuelta. On va passer, si tu le veux bien, Steve, à la deuxième partie. Les héros du Tour. Alors, on en a listé 4. Il aurait pu en avoir beaucoup plus. Veuillez nous excuser, bien entendu. Mais voilà, il fallait choisir. Et avec Sébastien Petit, on s'est dit, on va partir sur ces 4-là. On va commencer avec, bien entendu, Cocorico, le maillot de champion du monde, Julien Alaphilippe. Tu le disais, première semaine. Lui, il n'a pas attendu. Première journée entre Brest et Landerneau. Première victoire d'étape. Le tout avec la manière. Et premier maillot jaune, et Julien Alaphilippe derrière, il a fait son tour, on va dire, tranquillement. Il est allé dans les échappées, il n'a pas pu faire bis, mais avec cette première journée, il avait déjà assuré l'essentiel.
Mais carrément, et ne pas oublier que lorsque le tracé du tour est sorti, on a dit qu'ASO avait fait une fleur à Julien Alaphilippe pour pouvoir aller chercher enfin ce maillot jaune et pourquoi pas faire une épopée. Mais c'est vrai que lorsqu'il a gagné sa première étape, avec la manière, ouais, avec le maillot de champion du monde, avec le dossard 51, on le sait, c'est un dossard mythique. On s'est dit qu'il allait avoir une grande cuvée, Julien Alaphilippe. Il est tombé sur un ogre, Mathieu Van Der Poel. Mais quelle première étape! C'est vrai que moi, c'est vraiment le frisson. Je l'ai eu tout de suite et je me suis dit que si tous les jours on allait vivre ce genre d'émotion, ça allait être assez incroyable. Mais quel numéro de la part de Julien! Il était attendu. C'était l'archi favori avec Van Aert et Van Der Poel. Il a répondu présent. Et on savait, il venait d'être papa une semaine avant. Sachant qu'il a eu des ailes qui lui ont poussé derrière le dos pour s'envoler dans cette montée. Mais non, Julien Alaphilippe a fait un début de tour incroyable. Et derrière, il a tenté. Il fait partie vraiment de ces coureurs qui ont marqué le Tour de France.
Qu'est-ce que tu penses justement du tour de Julien? On a vu beaucoup de débats passer, notamment sur les réseaux. Certains disaient qu'une victoire d'étape, quand on est maillot jaune, qu'on s'appelle Julien Alaphilippe, qu'on est maillot de champion du monde, ça ne suffit pas sur un Tour de France. On l'imaginait avec un maillot distinctif, peut-être un maillot à poids et surtout une deuxième victoire d'étape. Il a beaucoup tenté par la suite. Il n'a pas réussi et il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas un tour réussi. Est-ce que tu es de cet avis ou pas?
Moi, perso, j'aimerais bien réussir un tour comme lui. Déjà, y être et gagner juste une étape, ce serait déjà incroyable. Non, mais clairement. Non, mais après, c'est vrai que Julien nous a habitués à manger du caviar. Donc,
c'est
quand
ça.
On tourne aux patates, forcément, c'est compliqué. Mais de manière plus objective, Julien, il a été chercher ce maillot jaune. C'était l'unique objectif de ce Tour de France et une étape. C'est fait. Ensuite, il y a eu du boulot pour Mark Cavendish. On l'a vu glisser dans de nombreuses échappées qui, malheureusement, ont rarement été au bout. Donc, forcément, quand je viens dans une échappée, ça collabore moins, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Derrière, on lui laisse moins de chance. On se méfie vraiment de Julien Alaphilippe. Donc, pour moi, son tour, il est très correct. Après, voilà, quand on a été maillot à poids il y a 2 ans, on a fait cinquième du Tour de France, voilà, pareil, on se dit qu'on attendait mieux. Mais voilà, remettons un petit peu les pieds sur terre, c'était pas possible, il n'allait pas gagner 5 étapes, il n'allait pas terminer dans le top 10 du Tour. Moi, je pense qu'il a fait un très bon Tour de France. Et bah, forcément, quand on connaît la fougue de Julien, quand on a les étoiles plein des yeux à le regarder courir, on a envie qu'il nous apporte un petit peu plus. Mais moi, je trouve que son tour a été plus que correct.
C'est bien dit. Notre deuxième héros du Tour, lui, il était très attendu. C'était son premier Tour de France et, allez, aujourd'hui, avec Julien Alaphilippe, peut-être la grande star, le porte-étendard du cyclisme mondial, bah, c'est Mathieu Van Der Poel. Il y avait cette belle histoire à écrire avec Raymond Poulidor, le papy, et Mathieu Van Der Poel, bah, qui est allé régaler. Il n'a pas réussi sur la première étape, mal placé hein, peut-être entre Brest et Landerneau, mais sur la deuxième, il a régalé à Mur de Bretagne. Il nous a fait un numéro avec à la prime, en prime, pardon, 5 jours. Avec le plus beau des maillots, le maillot jaune sur les épaules, Mathieu Van Der Poel, qui a marqué de son empreinte son premier Tour de France.
Ouais, non, mais il a été phénoménal. Je ne sais pas quel mot on peut utiliser sur cette première semaine, mais c'est vrai que lors de la victoire de Julien à Landerneau, tout le monde avait une espèce de petite déception de ne pas voir Mathieu Van Der Poel gagner cette étape avec ce magnifique maillot réplica de son grand-père, de Raymond Poulidor. Et puis, on s'est dit que c'était foutu parce que Julien avait quand même 8 secondes d'avance, plus les 10 secondes de bonification. On s'était dit que 18 secondes, c'était impossible à reprendre du côté de Mur de Bretagne. Et puis, bah, Van Der Poel, il nous a fait une Van Der Poel. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a attaqué. Il a été chercher les fameuses secondes bonus. On la rappelle au premier passage sur la ligne à Mur de Bretagne. Et dans le final, mais quel final! On a senti qu'il y avait, le papy de là-haut qui le poussait, la motivation et puis, enfin, Van Der Poel qui va chercher sa victoire d'étape, ce maillot jaune. Bon, l'histoire, je pense que si on voulait écrire un film, on aurait pu écrire ce scénario-là pour donner l'alarme et pour faire vibrer les téléspectateurs. Et en l'occurrence, lui, il l'a fait. Donc fou, tout simplement fou.
Le scénario était magnifique et Mathieu Van Der Poel qui est arrivé du côté de Tokyo parce que lui, il prépare autre chose. Ouais. Il prépare les Jeux Olympiques avec le VTT, le cross-country. Peut-être qu'il sera champion olympique dans quelques jours. Ce sera le 26 et 27 pour les épreuves de VTT à suivre sur Eurosport. Bien évidemment, le troisième de nos 4 fantastiques, nos 4 Avengers, impossible de passer à côté. Il a régalé sur les 2 dernières étapes notamment. Il sait tout faire. Bah, c'est le rival de Mathieu Van Der Poel. Hein. On les compare depuis qu'ils sont gamins, tous les deux, le Belge et le Néerlandais. C'est Wout Van Aert. 3 victoires d'étape pour le champion de Belgique. S'il vous plaît, au Mont Ventoux, peut-être l'étape la plus mythique de ce Tour de France, le chrono de Saint-Émilion et la victoire au sprint sur les Champs-Élysées. Cet homme sait tout faire, Steve.
Bah, excusez-moi, messieurs, dames, mais c'est encore un cyclocrossman. Hein.
C'est ça.
n'en déplaise aux suivants, mais Van Aert, il a été énorme. Il a été énorme, pareil, un petit peu à l'image de Van Der Poel. C'est fou, c'est complètement fou. On se rappelle de cette image à Pau, il y a 2 ans, victime d'un terrible accident, hein, accroché à une barrière Vauban sur le chrono de Pau. Ouais. On avait peur pour la suite de carrière, voire même d'handicap à vie de la part de Van Aert qui revient de très très loin. Et il revient sur ce Tour de France avec le maillot de champion de Belgique. Lui, il passe au travers de sa première semaine, clairement. L'objectif maillot jaune, l'objectif victoire d'étape, c'était pour Alaphilippe et pour Van Der Poel. On s'est dit, ils vont effacer un petit peu le tour de Van Aert. Et il a rectifié le tir d'une manière improbable avec cette échappée au long cours du côté de Malocène où il fait péter Bocce Mollema, Kenny Alisson, Julien Alaphilippe. Voilà, sur une échappée et sur une étape de montagne. Et puis ce week-end, avant-hier, hier, où il a été énormissime. Moi, je ne suis pas surpris. Encore une fois, ce n'est pas un garçon qui vient de nulle part. Depuis les juniors, il est dans les premiers rôles. Mais de là à remporter un style d'étape sur un seul et même grand tour, c'est pareil, ça restera dans les annales.
Et il y a cette question maintenant, forcément, on le voit gagner en montagne, à la pédale, hein, dans une échappée certes, mais il y avait des clients avec, on le voit gagner un sprint massif, et on le voit gagner un contre-la-montre, c'est peut-être le seul, avec pourquoi pas un Mathieu Van Der Poel, il faudrait travailler l'exercice du contre-la-montre pour Van Der Poel, à pouvoir réaliser ça aujourd'hui, Wout Van Aert. Et du coup, depuis 24 heures, on entend, est-ce que Wout Van Aert ne va pas jouer un classement général sur un grand tour, vu qu'il sait tout faire? C'est pas la même chose de jouer un classement général, mais est-ce que pour toi, il pourrait, dans les années à venir, il devrait même se concentrer, ou alors, rester sur ses acquis, à savoir les classiques, là où il excelle.
Bah écoute, c'est vrai que quand tu regardes le Tirreno-Adriatico qu'il a fait sur une semaine, voilà, il termine deuxième, il a été énorme, il a joué le classement général, mais on sent que c'est pas son kiff, c'est pas son délire. Ouais. On sent que c'est un coureur qui aime aller de l'avant, qui aime attaquer, qui aime provoquer, qui aime jouer. Et aujourd'hui, ses victoires d'étape, que ce soit sur les Champs-Élysées ou du côté de Malocène, alors le chrono, c'est OK, il a les qualités pour ça, mais quand on joue un classement général, pas sûr qu'on aille prendre autant de risques, même sur une arrivée massive. Si c'est un coureur qui joue le classement général, pas sûr qu'on lui laisse de la liberté comme il a pris pour aller dans l'échappée du côté de Malocène. Il a les capacités physiques, mais pour moi, il est encore un petit peu lourd. Je pense qu'il a 5 ou 6 kilos de trop, mais je pense surtout qu'il n'a pas envie. Un classement général, c'est compliqué. C'est se préparer uniquement pour ça. Et il a tellement à faire avec les classiques. On le rappelle, il a déjà remporté Milan-San Remo. Son rêve, c'est de gagner Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Par contre, avec ce qu'il nous a montré sur l'étape de Malocène, bien sûr qu'il pourra peut-être gagner un jour le Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Pas gagner un grand tour, par contre, remporter les 5 grands monuments du cyclisme, je pense que ça peut être un objectif à plus ou moins long terme pour Wout van Aert.
Oui, parce que pour jouer peut-être un classement général, il faudra peut-être aussi changer d'équipe, hein, parce que quand on a un Roglic, un Vingegaard dans l'équipe, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Allez, le quatrième de nos 4 fantastiques, bah, on ne pouvait pas passer à côté, lui aussi, il a fait les gros titres. C'est, à l'image d'un Mathieu Van Der Poel, peut-être la plus belle histoire également de ce tour, hein, Man of Man. Marc Cavendish, auteur, pas d'une, pas de deux, pas de trois, mais de 4 victoires. Il a égalé le record d'Eddy Merckx avec 34 succès sur la grande boucle. C'est peut-être l'un des exploits les plus inattendus de ces 20-30 dernières années dans le cyclisme. Steve, toi comme moi, en début de saison, quand on l'a vu signer chez la Deceuninck Quick-Step, on s'est dit, allez, il va peut-être aller chercher une victoire sur une course secondaire comme il l'avait fait sur le Tour de Turquie. Mais de là, tout de même, à gagner 4 victoires sur le Tour de France, alors qu'il y a encore un an, il n'arrivait pas à passer un pont d'autoroute et à gagner un sprint avec des Conti Pro. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, ce qu'il a fait, Marc Cavendish.
C'est lunaire.
C'est lunaire.
C'est lunaire ce qu'a réalisé Marc Cavendish. Je pense qu'on peut même noter la performance de Marc Cavendish parmi les comebacks les plus improbables dans le cyclisme, dans la mesure où il vient quand même de passer 4 années
au purgatoire.
Pour moi, il était devenu un coureur lambda. Quand on a le palmarès de Marc Cavendish et qu'on se dit sprinter, qu'on a gagné des étapes sur les plus grands tours, qu'on a été champion du monde, qu'on a marqué de son empreinte l'histoire du cyclisme, il a passé 4 années, je pense, galère. Et c'est vrai qu'en début de saison, d'ailleurs, c'était sur un bistrot vélo, c'est rigolo, j'avais dit que Cavendish, s'il en gagne une, ce sera peut-être un critérium d'après-tour parce qu'on le laissera gagner. Eh ben, j'ai envie de dire, il m'a cloué le bec. Il n'y a que les grands champions qui peuvent faire ça. Moi, honnêtement, si on m'avait dit qu'il terminerait déjà dans un top 5 sur un sprint sur le Tour de France, j'aurais éventuellement pu y croire avec, pourquoi pas, une chute ou un bon placement. Mais là, gagner 4 courses, égaler le nombre de victoires sur le Tour de France d'Eddy Merckx et surtout ramener le maillot vert à Paris.
Le
il a traversé
vert.
Les Alpes, il a traversé les Pyrénées. Honnêtement, pour moi, c'est lunaire. C'est peut-être même l'exploit. Pour moi, c'est l'exploit du Tour de France.
Ouais, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Il a ramené le maillot vert. Et effectivement, question de Ninon. Est-ce que pour toi, il doit s'aligner sur le prochain Tour de France? Bon, ça ne dépend peut-être pas que de lui, pour essayer de battre ce record.
Non, pour moi, ça y est, c'est bon. Il peut finir tranquille, en beauté. D'ailleurs, j'ai cru comprendre les sous-entendus de Patrick Lefebvre pendant le Tour qui disait « On va le ramener à Paris et il sera temps de dire au revoir ». On a senti que chez Patrick, il ne fallait pas insister. On le rappelle, il a quand même 36 ans. Il n'y avait pas non plus, attention, je pèse mes mots, les meilleurs sprinteurs mondiaux.
Bien sûr.
Il n'y avait pas Caleb Ewan qui était là. Il n'y avait pas du grand Ackermann. Il n'y avait pas le grand Viviani de la
Grande
Bennett. Il n'y avait pas Sam Bennett. Sam Bennett qui est quand même l'un de ses équipiers. Donc, je pense de dire au revoir, finir la saison, partir comme ça sur un maillot vert, un petit rouge. Ce serait une belle fin de carrière.
On suivra ça avec attention. On passe à la troisième partie, oui, parce que le temps passe. Le cahier des classes, le fameux. On va commencer par peut-être le point noir de ce Tour de France. On l'a appris hein, ces derniers jours avec toute cette suspicion. Alors ça, Steve, tu me diras, c'est naturel autour du cyclisme en général et du Tour de France. Tous les doutes concernant les coureurs, notamment le vainqueur Tadej Pogacar, avec aussi ces perquisitions au sein de l'hôtel du team Bahrain Victorious, un petit peu au centre de l'attention, au centre de la tourmente. Ils ont régalé sur ce tour avec des victoires pour Dylan Teuns, Matej Mohoric à deux reprises, Sonny Colbrelli qui a volé en montagne. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? On a vu des articles également sur des coureurs qui enquêtaient en interne sur des bruits sur les vélos. Ça fait partie du Tour de France, mais toi Steve, qu'est-ce que ça t'inspire?
Ouais, ça fait partie du Tour de France. C'est vrai que cette année, avant le Tour, il n'y a pas eu d'affaires, il n'y a pas eu de petits no-shows ou de petits scandales. Wow, on aime bien chaque année, effectivement, remettre à plat et débattre sur tel ou tel coureur, telle ou telle équipe. Ça fait partie, j'ai envie de dire, malheureusement, à l'étiquette des courses cyclistes. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on n'a rien trouvé. Encore une fois, on cherche. On a des coureurs apparemment au sein du peloton qui cherchent. Bah, on attend de voir ce qu'ils ont trouvé. Mais en tout cas, ça fait parler. Mais c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti, rien de bien concret, rien d'officiel. C'est que des suspicions. Et on sait que dans le vélo, la suspicion fait partie du jeu. On peut tous être suspicieux de Pogacar, on peut être suspicieux de Jonas Philippe, on peut être suspicieux de Mark Cavendish, on peut même être suspicieux de Frank Bonamour, on peut être suspicieux de tout le monde. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves et tant qu'il n'y a rien de concret qui sort, dans le milieu du vélo, ça fait parler. Et ça fera toujours parler de toute façon. Hein. C'est un sport tellement dur qui révèle tant de talent et de bonheur aux gens qu'on a toujours l'impression que c'est pas possible. Donc ça fait parler.
Est-ce que tu es d'accord avec moi? Toi comme moi, en tant que suiveur, on est habitué à ce genre de scène. Mais sur le Tour de France, l'événement le plus médiatique, quand on voit ça, le suiveur lambda devant sa télévision le matin, il lit son journal et il voit perquisition à l'hôtel des coureurs. Est-ce qu'il ne retient au final pas que ça de ce Tour de France en se disant « Ah bah eux, ils sont dopés, etc. » C'est pas ça le plus dommageable pour le vélo?
Ah ben si, évidemment, c'est très dommageable. Mais en fait, j'ai envie de te dire, moi-même, tu vois, mon père, qui n'est pas capable de faire 10 km, il hallucine de me voir faire ne serait-ce 100 km. Donc celui qui ne connaît rien en vélo, celui qui suit le Tour de France, qui est pour moi l'un des événements populaires, le plus extraordinaire.
Bien sûr.
Il n'arrive pas à faire 5 bornes en vélo et il voit des coureurs monter le Ventoux à 22 moyenne. Quelle est sa première réaction? C'est des surhumains. Et si en plus il y a la police qui descend dans leur hôtel, c'est sûr et certain, ils trichent. Mais ce sont des professionnels. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est laissé au hasard. Les machines ont évolué un truc de fou. Alors on compare les temps de montée entre Pantani il y a 25 ans et aujourd'hui, les vélos ne sont plus les mêmes. Les boyaux, les roues, tout est différent. On ne sait pas si le vent il est de face ou il est de dos. Enfin bref, on compare un petit peu la Formule 1 des années 50 et la Formule 1 des années 2020. Donc moi, ce que je pense, c'est que le vélo a toujours cette part de rêve. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas rêver et qui ne veulent pas observer et se dire que tout est possible.
Dans ce cahier des classes, le Tour des Français, on le rappelle, une victoire d'étape, celle de Julien Alaphilippe, un maillot jaune, c'était la première journée. Coureur le mieux placé au classement général, Guillaume Martin, 8e pour le Team Cofidis. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est un tour réussi pour les Français? On a Franck Bonamour avec une mention très bien qui est le super combatif. On les a vus beaucoup à l'avant, mais au final, une victoire d'étape, c'est assez maigre.
Ouais, c'est vrai que c'est assez maigre. Clairement, le bilan comptable, comme ça, de but en blanc, une victoire, c'est peu. Maintenant, c'est vrai que pour gagner sur le Tour de France, il faut être parmi les meilleurs des meilleurs. Il n'y a pas vraiment de coureur inconnu qui s'est imposé sur le Tour. Et c'est vrai que côté français, il y avait Julien Alaphilippe. Et derrière, on a compté sur Guillaume Martin, mais on l'attendait plus sur le classement général. Et d'ailleurs, il a réussi un très beau classement général. On s'attendait à David Godu pour le classement général. Il s'est rabattu sur les étapes en fin de tour. Malheureusement, il n'a pas pu mettre la balle au fond. Et puis, c'est vrai qu'après, on a eu nos éternels attaquants. Pierre Roland, Julien Bernard, Franck Bonamour. J'en oublie certainement. Mais Nasser Bouhanni, qui n'est pas passé loin de faire mouche aussi sur les sprints massifs. Brian Cocquart, Arnaud Démare, très rapidement mis hors jeu par les chutes.
Ouais, justement, c'est ce que nous dit Mickaël. Hein, les deux grosses déceptions françaises de ce tour, c'est Arnaud Démare hors délai, on le rappelle, et Warren Barguil qui est passé complètement à travers lui aussi. Tu es d'accord avec ça?
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que, par exemple, Arnaud Démare, je m'imaginais bien le voir lever peut-être au moins deux fois les bras, surtout par rapport à ce qu'il nous avait montré en début de saison, par rapport à son Giro de l'année passée.
Et on avait fait une équipe autour de lui, la Groupama FDJ, David Godu, il avait Bruno Armirail, mais au final, cette formation Groupama FDJ, elle était concentrée autour d'Arnaud Démare.
Ouais, exact. Et puis c'est vrai que bah voilà, Arnaud malheureusement n'a pas su trouver la faille en première semaine. Il était même relativement loin dans les sprints. On a senti qu'il cherchait un petit peu, à mon sens, voilà, la perfection. Ils se sont pas beaucoup trouvés avec l'équipe, hein, avec Scottson, avec Konovalovas qui est parti relativement vite aussi du Tour. Je pense que ça a mis un gros coup dur. Donc oui, effectivement, Arnaud qui repart du Tour sans victoire d'étape, c'est une déception. Brian Coquard, Nasser Boigny, les deux autres sprinteurs français, c'est pareil, on peut imaginer qu'ils n'en fassent qu'une. Warren Barguil en montagne, surtout avec la première semaine qui venait de passer où il avait dégueulé pas mal de temps, il aurait pu avoir plusieurs opportunités. Faire une Ben O'Connor, pourquoi pas. Mais voilà, Warren, bah, ça fait partie du jeu, on peut pas être bien tous les ans. Donc j'ai envie de dire oui, de but en blanc, le bilan aurait pu être meilleur, mais il y a vraiment des circonstances atténuantes. Donc, on espère évidemment à tous ces coureurs que je viens de citer, bah déjà de bien se refaire la santé, parce que tout le monde est rentré chez soi avec la chute ou la maladie ou la blessure. Ouais. Donc, c'est compliqué. Et on espère qu'ils reviendront en fin de saison et qu'ils iront chercher de belles victoires.
Les invisibles de ce Tour de France, on en a listé trois. Peter Sagan, qui a abandonné lui aussi assez rapidement. Jakob Fuglsang, le Danois qui a encore quelques années joué un classement général. Et on est obligé de le mettre. Christopher Froome, qu'est-ce que ça t'inspire, ces trois noms?
Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que on les a cités uniquement parce qu'on les voyait soit lâchés, soit entre guillemets pris dans une chute ou autre. Chris Froome, si la réalisation s'arrête pas dessus, on le voit pas du tout ouais. Les trois semaines du Tour. Jakob Fuglsang, c'est pareil. J'ai pas compris son inactivité. Il a essayé d'aller peut-être dans une ou deux échappées, mais on a senti qu'il espérait que ça n'aille pas au bout et que vite que derrière ça rentre. Et Peter Sagan, bon, malheureusement, il chute avec Caleb Ewan lors de l'arrivée à Fougères. Et c'est vrai qu'après, il fait un Tour de France transparent. Ouais, c'est malheureusement le Tour de France. On fait des fois des connaissances avec des coureurs et qui sortent un petit peu du lot. Mais eux, cette année, ils sont sortis du lot, mais pas de la bonne des manières, j'ai envie de dire, puisqu'on ne les a quasiment pas vus.
Ton coup de cœur, Steve, pour ce Tour de France. S'il y avait un coureur à choisir, ton coup de cœur.
Bah moi, mon coup de cœur, c'est Wout van Aert, parce que c'est vrai que j'avais pu échanger après son grave accident de peau, où lui me disait par message voilà qu'il espérait même remarcher correctement. Je l'ai suivi pendant l'hiver, il est revenu en cyclocross, j'ai pu discuter avec lui voilà en tant que coureur, justement sur comment il pensait et il voyait l'avenir. C'est quelqu'un de très optimiste, mais réaliser ce qu'il a réalisé cette année, gagner sur les trois styles d'étape, montagne, chrono et sprint, c'était incroyable. Il faisait l'effort de répondre en français. Il a été hyper précieux pour Vingegaard. Il n'a pas fait beaucoup d'étapes en dedans où il aurait pu dégueuler 30 minutes pour faire une étape en récup. Donc non, mon coup de cœur, c'est Wout van Aert.
Et s'il y avait un coup de gueule, ton coup de gueule, ça serait lequel?
Ouais, j'ai pas vraiment de coup de gueule. Petit coup de gueule à la météo quand même. Non, mais franchement, la vérité, c'est que...
Météo des Vosges.
Ouais... Non, et ça aurait été la météo des Vosges, j'aurais eu la canicule, c'est encore pire. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas oublié ce que c'était. Et je pense que les coureurs ont passé des moments très, très compliqués avec une météo qui ne les a pas souvent gâtés. On se rappelle de Alejandro Valverde qui pète un plomb au départ de je ne sais plus quelle étape parce qu'il ressent à nouveau la pluie qui tombe. On était au mois de juillet, on attend toujours la canicule. Donc mon coup de gueule, c'est après la météo, lâcher les coureurs en juillet, c'est du soleil.
Allez, on se projette très rapidement, et oui, c'est loin, hein, pour le Tour de France 2022, on sait une chose d'officiel, c'est que le grand départ, il se fera pas en France, il se fera au Danemark, du côté de Copenhague. Alors, on a fait un petit peu le tour des rumeurs, on devrait passer 3-4 jours là-haut, une journée de transition pour revenir par le nord de la France. On annonce une étape de pavé, on parle d'arriver sur les Alpes du Sud, retrouver un petit peu les cols mythiques, notamment l'Alpe d'Huez ou encore le Galibier, on parle d'arriver à Mende. À Gérardmer, qu'est-ce que ça t'inspire ce Tour 2022? Et toi, qu'est-ce que tu aimerais voir justement dans ce prochain Tour l'an prochain avec, je ne sais pas, un tracé différent, avec des contrôles à montre par équipe qu'est-ce que tu aimerais avoir en 2022?
Ouais, c'est ça. Bah, écoute, c'est vrai que s'il y a le retour d'une étape pavée, on en a longtemps parlé pendant le Tour, si vous nous avez suivi sur Eurosport, le Tour de France, pour moi, pour beaucoup de suiveurs, ça doit sacrer le coureur le plus complet. Et c'est vrai que voilà, il faut de la montagne, il faut des contrôles à montre individuels. Il faut des étapes de plat, il faut des étapes de vent. C'est vrai que cette année, du côté de Carcassonne ou de Nîmes, voilà, les coureurs, ceux qui n'aiment pas les bordures, ont été chanceux, mais il faut savoir courir dans le vent. Il faut savoir rouler sur le pavé. C'est vrai que de temps en temps, une étape pavée, voilà, qui ressemble aux classiques flandriennes. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ça permet de juger et de voir qui sait tenir sur le vélo. Et puis, pourquoi pas même un chrono par équipe pour juger de la valeur d'un collectif. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on attendra le mois d'octobre et voir le tracé avec impatience pour pouvoir commencer à lister quel coureur a plus d'atouts dans sa poche pour aller chercher une victoire sur le tour. Je parlais de pavé. J'imagine mal un Primoz Roglic, par exemple, sortir indemne d'une étape pavée. On imagine mal un coureur comme Egan Bernal, pourtant très puissant, s'en sortir sur les pavés ou dans le vent. Donc maintenant, c'est le tracé et tout le monde l'attend.
Mais surtout si tu mets les deux zigotos, les deux Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel sur une étape pavée, ça risque d'être assez sympa. Le prochain grand événement, on y arrive très rapidement. On l'a vu, hein, ces images.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Les coureurs hier qui sont arrivés, ils ont pris une petite douche, ils ont tout de suite mis la jaquette, on parle d'un David Gaudu pour l'équipe de France, et direction l'avion immédiatement pour aller à Tokyo, parce que la course en ligne chez les garçons, ça sera ce week-end, le 24 juillet. Pour toi, c'est qui le favori? On rappelle, il y aura des Wout Van Aert, des Fuglsang, il y aura David Gaudu côté français, Quintana, Rigoberto Urán pour les Colombiens, Remco Evenepoel qu'on n'oublie pas non plus. T'as un favori, toi?
Écoute, il faut regarder un petit peu ceux qui ont très bien terminé ce Tour de France. Et quand on regarde finalement la fin de tour, David Gaudu, il peut faire mouche. Ça peut être un excellent coureur. Il ne sera pas forcément parmi les favoris. Pour moi, l'archi-favori, c'est Van Aert. C'est Van Aert parce qu'il va y avoir une équipe de Belgique évidemment articulée autour d'un homme d'expérience, Greg Van Avermaet, qui n'a pas fait un super Tour de France, ouais. Mais il a déjà été champion olympique. Il sait comment ça se court. C'est une course très particulière, on le rappelle. 5 coureurs maximum par nation, beaucoup de kilomètres, 250 bornes et un parcours très compliqué du côté du sud de Tokyo, il me semble. Donc 250 bornes de montagne. Voilà, maintenant il va falloir voir comment il se met au décalage horaire. On sait que la Classica Saint-Sébastien se déroule le samedi suivant le Tour de France. En général, c'est les coureurs du Tour qui sont les plus performants. On peut imaginer la même chose du côté de Tokyo, sauf qu'il y a ce fameux décalage horaire qu'il faut prendre en considération, le fameux biorhythme de l'athlète, et peut-être que certains coureurs vont avoir du mal à se mettre à l'heure nippone, mais pour moi l'archi-favori c'est Van Aert.
Sébastien Petit qui va nous remettre l'infographie avec justement le calendrier, vous le voyez, avec le VTT, le cross-country qu'on n'oublie pas, le 26 juillet avec Mathieu Van Der Poel, Thomas Pidcock chez les garçons, chez les filles le 27 avec Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot. Il y aura la piste du 2 au 8 août. On aura également le contre-la-montre qu'on n'oubliera pas chez les garçons, chez les filles avec un certain Rémi Cavagna, ça sera le 28. Et puis les épreuves de BMX, tout sera bien entendu à suivre sur Eurosport. Clap de fin sur ce bistrot du vélo spécial Tour de France. On va marquer une petite pause pendant les Jeux Olympiques et on se retrouvera tout de suite après. On va laisser le temps à Steve Chenel de se requinquer du côté des Vosges. Merci beaucoup en tout cas Steve d'avoir accepté l'invitation. On espère te revoir très rapidement sur Eurosport et sur Bistrot Vélo.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais bien suivre les JO, nos Français, les Victor Koretsky, Jordan Sarrou, Rémi Cavagna. Faites-nous rêver, Pauline Ferrand-Prévot, Loana Lecomte, les Pistards, on compte sur vous. Et puis, un petit peu de récup, tourner un peu la papate dans les Vosges. Et puis, on se retrouve bientôt, Colin. Il y a encore du boulot en août.
On se retrouve bientôt, effectivement. Ça sera le mot de la fin. Allez les Bleus pour les Jeux Olympiques. À bientôt dans Bistrot Vélo.